Bonjour à chacun et à chacune. Comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, vous êtes vraiment au bon endroit ce matin. Peut-être certains viennent pour la première fois dans un tel lieu. Ils me venaient, je me dis peut-être certains vont être surpris, mais où est l'autel? Vous savez que l'autel, c'est là où on fait le sacrifice. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le sacrifice, il n'y a plus de sacrifice à offrir. Il a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ que nous chantons, que nous proclamons une fois pour toutes, il y a 2000 et quelques années, à la croix de Golgotha. Et par ce seul sacrifice, tous nos péchés sont effacés. L'iniquité de nos cœurs tordus a été ôtée. Cela est fait. Alors vous allez dire, mais pourquoi encore tant de problèmes? Parce que à celui qui croit, cela est accordé. Il n'y a plus rien à faire, sauf croire, faire confiance dans la personne du Seigneur Jésus, du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu en chair sur cette terre, lui le Fils de Dieu, qui est mort, qui est ressuscité, qui aujourd'hui règne et qui est le Sauveur et le Seigneur, au-dessus des nations, au-dessus des rois, au-dessus de tout. Le Père lui a donné toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Encore faut-il le croire. Jean-Luc nous a parlé de Zachée. Et nous avons chanté un chant, c'est pour ça que j'ai demandé, « Reçois ma vie comme une adoration. » Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant, puisque Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il nous reste une chose, il ne nous demande pas de mourir pour lui, mais de nous donner, et de vivre pour lui, et par lui. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, c'est ce qu'a fait Zachée. Il a tout laissé tomber. Instantanément, il y en a un autre comme ça, Matthieu aussi. Jésus l'a appelé. Il était péagé. Jésus l'a appelé, il est venu. Et moi, ce matin, je vais vous parler d'un homme. Jésus est venu pour chercher toutes sortes d'hommes. Un péagé, des prostituées, des gens qui étaient dans des débauches pas possibles. Eh bien, moi, il est venu, figurez-vous, aussi chercher un ministre. Et ce matin, je vais vous parler d'un ministre. Je ne vais pas vous lire tous les textes, mais nous allons lire ensemble le texte que lisait ce ministre. Alors, je vous situe l'histoire. On est quelques années après la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Il a grandi. Il était fils de charpentier. Les gens disaient, celui-là, mais on le connaît, il est fils du charpentier, fils de Joseph. Il a des frères, il a des sœurs. On le connaît, mais qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Et pourtant, il voyait qu'il y avait quelque chose de différent chez cet homme. Donc Jésus est venu, il a accompli, il a manifesté qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le roi, par des miracles, des prodiges, des guérisons, faisant le bien partout où il passait. Il manifestait un royaume d'amour, mais un royaume de justice. Il représentait, il est Dieu, et il vient sur cette terre pour manifester la justice de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu, l'amour de Dieu. Il est venu le manifester, c'est pas le tout d'en parler, il est venu manifester. Et en son temps, il a été rejeté. Et puis, il a été crucifié. Lui qui n'avait rien commis de mal, qui n'avait fait que du bien, il a été rejeté par ceux pour qui il venait. Et nous en sommes de cela. Alors, cela s'est passé, Jésus est mort à la croix, il a été mis au tombeau. Quelques jours après, il est ressuscité. Certains ont voulu faire croire qu'on l'avait enlevé du tombeau. Et la parole nous dit que ceci se poursuit jusqu'à ce jour, mais il est ressuscité. Il a commencé à le dire à une femme, Marie-Madeleine, en lui disant, va dire à mes frères, qui étaient désespérés après la mort de Jésus, va dire à mes frères que je m'en vais vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Et cette femme est allée à l'annoncer la résurrection. Voilà tout ce qui s'est passé. Alors l'histoire que je vais vous comptée, enfin, pas que je vais vous compter, elle est décrite dans les actes des apôtres, hein, c'est-à-dire après la résurrection de Jésus, il y a eu la Pentecôte, une effusion du Saint-Esprit, où les gens étaient convaincus de péché, ont donné leur cœur au Seigneur, et l'Église de Jésus-Christ, hein, dont il avait dit, je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, l'Église se répand, l'Église, c'est tous ceux qui ont cru à ce que je vous raconte là, ce que je vous témoigne là. Ils ont cru et l'Église s'est répandue. Et dans ces temps-là, un homme, un ministre de la reine de Candace, grosso modo d'une région, d'un royaume qui se situerait aujourd'hui du côté du Soudan et de l'Érythrée, ce qu'on appelle un craignant Dieu, quelqu'un qui savait que Dieu existait, hein, et c'est normal qu'on croie que Dieu existe, puisque la parole nous dit que Dieu a mis dans nous qui sommes ses créatures la pensée de l'éternité. Alors vous pouvez dire, je suis athée, je suis ceci, je suis cela. De toute façon, Dieu a mis dans votre cœur la pensée de l'éternité. Il va bien falloir faire avec. Et c'est ce qui nous amène à chercher. Alors cet homme cherchait, c'était un craignant Dieu. Il était venu à Jérusalem parce qu'il y avait là un peuple que Dieu avait choisi, le peuple hébreu, et qui chaque année célébrait la Pâque, un souvenir, et j'en dirai un mot, du passage de la mer Rouge, quand Dieu était intervenu pour sauver son peuple. Il était venu pour ses fêtes, et il repartait chez lui, ministre, donc, des finances de la reine éthiopienne. Et là, il est sur son char. Alors, bon, j'ai pas amené de char ce matin, vous imaginez, c'est un ministre, donc il a un chauffeur. Et bien sûr, hein, il a un chauffeur, il n'a pas de jet, mais il a un char, il a un ministre, un chauffeur. Et donc, ça lui permet d'avoir les mains libres, et il lit. Et il lit. Faisant route, rentrant chez lui, il lit. Et je vais faire comme lui. Je vais lire le texte que ce ministre était en train de lire. Alors c'est un texte qui a été écrit 700 ans auparavant par un prophète du peuple d'Israël, Ésaïe. C'est un nom que beaucoup connaissent. 700 ans, retenez ça. Ce que je vais vous lire là, ce que lisait ce ministre, ça a été écrit 700 ans. Avant la venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 2700 ans. Je lis ce texte. Pour ceux qui ont une Bible, c'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53. Je vous demande, et ceux qui n'ont pas de Bible, écoutez, écoute, écoute, avec ton cœur. Qui a cru ? Vous y voilà. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Jésus va dire, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Voyez-vous ce ministre, qui n'était pas un hébreu, un juif, qui n'était pas forcément immergé dans la parole, dans l'Ancien Testament, dans tous les écrits juif, est touché par ce texte. Il est touché par ce texte. Et il va demander à Philippe, un évangéliste qui est là, que le Seigneur a envoyé de manière tout à fait miraculeuse, va lui dire, mais de qui parle le prophète dans ce texte? Il est interpellé dans son cœur. Est-ce de lui-même ou d'un autre? Il a saisi, mais il y a encore un voile. Et c'est là que le témoin de Dieu, qui connaît les choses de Dieu, va lui dire, va lui annoncer Jésus-Christ. Il va lui dire, oui, tu as bien saisi, tu as été touché là. C'est un texte prophétique. 700 ans avant, le prophète, inspiré par le Saint-Esprit, décrit exactement ce qui va se passer. La venue de Jésus, ses souffrances, les jugements iniques dont il va être l'objet. Et déjà l'explication nous est donnée par le prophète, il est brisé pour nos péchés et nos iniquités. Ce ministre est touché. Et son cœur est changé, à l'instant. À l'instant. Il y a un voile qui est ôté, il a saisi. Pas des choses intellectuelles. Son cœur est touché. Il a compris que tout ce qui est de la culpabilité, tout ce qui est des choses, parce que l'homme, et là je vais vous dire quelque chose d'important, l'homme, créature de Dieu, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, a voulu quitter sa place de créature et devenir créateur, devenir Dieu lui-même. Et cela, ça a amené, c'est ça le péché, c'est cette séparation, cette indépendance voulue par la créature de son créateur merveilleux qui lui avait tout confié. Et cet homme-là, ministre, est travaillé par tout ça. Et il est touché. Et il reconnaît simplement qu'il a besoin de ce salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'homme sans péché, le nouvel Adam, va payer le prix du péché à notre place. Voilà le christianisme. Mais le christianisme ne s'arrête pas là. Jésus meurt pour nos péchés, par sa mort. Nous sommes réconciliés avec le Père. Mais nous ne sommes pas réconciliés pour rester morts. Il donne une vie. Il donne une vie. Il a donné sa vie. Et donnant sa vie, la barrière du péché est rompue. Et nous pouvons être en communion avec le Père. Et le Père va répandre le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et va nous attester dans nos cœurs de ceux qui croient à la valeur de ce sacrifice, de son amour immense. Voilà le christianisme. Et je ne vais pas aller beaucoup plus loin ce matin. Parce que ce qu'a vécu Zachée, ce qu'ont vécu bien d'autres, ce qu'a vécu ce ministre, nos frères et sœurs ce matin l'ont vécu. Et beaucoup ici l'ont vécu. Ils vont simplement l'attester avec leurs mots, avec leur parcours. Alors, oui, ici, nous baptisons des hommes et des femmes qui ont cru en ce qui a été annoncé. Une foi personnelle, une révélation personnelle, différente. Les cœurs sont touchés, les vies sont touchées à un instant ou à un autre. Mais cette pensée de Dieu qui est dans les cœurs, qui ont amené les uns à chercher pendant des années, à errer. À un moment, il y a une révélation. Cette révélation, elle vient, comme pour le ministre éthiopien, parce que la parole de Dieu, la vérité, est simplement annoncée, sans fioriture. Je ne vous ai fait ce matin que de vous lire un texte. Et nous sommes invités à croire, simplement, à nous remettre dans notre position de créature. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors nous baptisons des gens qui ont cru. Le baptême ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, une fois pour toutes. Il n'est plus à accomplir, il est accompli. Mais une fois qu'on a saisi cela, on a envie d'attester. Et le baptême est une manifestation de cette foi. Si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus, si tu te crois, alors ouvre ta bouche et dis-le simplement. J'ai vécu une chose merveilleuse. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et c'est ce que cet homme va confesser. Cet homme dit à Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors une précision tout de suite, baptisé, je pourrais vous dire baptisé par immersion, mais c'est un pléonasme. Baptisé, ça veut dire immerger, plonger. D'ailleurs, l'évangéliste Philippe à cette question du ministre, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il lui répond quoi? Il lui dit, si tu crois de tout ton cœur. Alors le ministre dit, je crois, et vous savez ce qu'il répond? C'est très simple. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà la confession. C'est la même confession que Pierre va faire quand Jésus va dire, mais vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà la confession. La confession qui vient d'un cœur qui est transformé. Le cœur est transformé. Alors quand le cœur est transformé, on a envie de le dire tout simplement. Et c'est ce qui va se passer ce matin. Et le baptême ne sauve pas. Mais le baptême est une attestation que quelque chose a été changé dans une vie. Et il manifeste quoi? Pourquoi cette immersion, ce plongeon? Ça fait référence, au moins, à deux textes, enfin deux situations, deux événements de l'Ancien Testament. Premièrement, le déluge du temps de Noé. La terre a été submergée par les eaux. Parce que Dieu qui avait créé l'homme, l'homme qui s'est révolté, il y a des paroles, c'est vrai, terribles, mais il y a une espérance, et c'est celle-là que je vous annonce, mais il y a des paroles terribles. Le cœur de l'homme, révolté contre Dieu, est entièrement tourné vers le mal. Dieu résout d'effacer sa création, mais c'est un Dieu de grâce. Et là encore, ceux qui croiront et qui rentreront dans l'arche seront sauvés. L'arche figure, préfigure le salut. Ceux qui seront dans l'arche, qui auront cru à ce qui était annoncé, vont entrer dans l'arche et seront sauvés. Les autres seront engloutis. Si nous persévérons, si nous résistons, nous avons de grands problèmes. Mais à celui qui croit, Dieu offre le salut pour l'éternité. Le deuxième événement auquel il est fait allusion, c'est la traversée du peuple hébreu qui était en captivité en Égypte pendant 400 ans et qui va sortir d'Égypte. Parce que Dieu a vu la misère de son peuple. Dieu voit les difficultés dans nos vies, les esclavages auxquels nous sommes soumis. Qu'il s'agisse de drogue, d'addictions diverses, d'addictions au jeu, de l'adultère, de toutes ces choses. Il y a toutes sortes de choses. Même les gens qui paraissent comme ça, propres en surface. Il y a plein de liens qui terrassent, qui minent les cœurs, qui finissent par ruiner la santé. Voilà l'esclavage duquel Dieu veut nous sauver. Il a vu la misère de son peuple en Égypte. Il va les sauver alors que la mort, la condamnation sur ceux qui ont résisté à Dieu après la patience de Dieu qui est grande, je vous l'assure. Mais ceux qui vont croire au sacrifice de l'agneau, figure de Jésus-Christ, vont être sauvés. Mais ensuite, ils vont être sortis d'Égypte d'une manière extraordinaire par la traversée de la mer Rouge. Les eaux vont s'ouvrir. Ceux qui ont cru et qui ont été sauvés vont traverser. Ceux qui persistent dans la résistance à Dieu vont être engloutis. Deuxième image qui est véhiculée par le baptême. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Nos frères et sœurs vont témoigner qu'il y a eu un changement de vie et que les sentiments qui étaient en eux de convoitise, « Oh non, moi je ne suis pas... » Mais si, on a tous des choses bizarres en nous. qu'on apprend à bien gérer. Mais ça reste, ça continue de miner les cœurs. Ils vont témoigner de cela. Et qu'une vie nouvelle va être plongée. Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés, c'est dans la mort de Jésus-Christ que vous avez été baptisés, mais vous êtes ressuscités. Vous avez été fait le même plan, mais maintenant vous êtes ressuscités pour une vie nouvelle. Et nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour lui et pour les frères. Et nous savons que c'est la vérité, parce qu'il y a un amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, un amour que nous ne connaissions pas. Il est là. Voilà, c'est ça. Je ne vous ai pas fait de théologie ce matin. Je vais vous parler de cette rencontre personnelle. Le baptême n'a rien de magique, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est l'attestation d'une conscience qui a été transformée par une révélation de l'œuvre de Jésus-Christ. Et alors qui dit, voilà, je ne suis plus le même. Quand cela m'est arrivé, il y a 13 ans maintenant, je disais partout, alors les gens me prennent un peu pour un fou, peut-être aujourd'hui, vous aussi. Il est peut-être un peu fêlé celui-là. Vous savez, moi, on m'a dit j'ai été illuminé. Oui, j'ai été illuminé. Illuminé. Mon cœur a été illuminé par la révélation de Jésus-Christ. Et ma vie qui est une vie de ruine, elle a été transformée. Parce que je sais qu'il m'aime. Les difficultés ont continué, certaines difficultés ont continué. Mais je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que je le verrai au dernier jour. Parce que c'est ça l'espérance chrétienne. Nous aurons des difficultés ici. Il ne s'agit pas de mépriser le monde où nous sommes. On est appelé à vivre dedans. Mais notre espérance n'est pas dans la Jérusalem terrestre. Elle est dans la Jérusalem céleste. Elle est dans la Jérusalem céleste. Cette espérance, elle est offerte à tous. À tous. Quiconque. Quiconque croit en l'œuvre de Jésus-Christ. Et sauvé. Donc le baptême, ce n'est pas un acte magique. C'est la manifestation d'une foi personnelle. J'entends dire des fois, c'est la foi qui sauve. Mais quelle foi? En quoi? En qui? Nous croyons. Parce que Jésus-Christ est vivant, alors nous pouvons nous adresser à lui. Alors nous pouvons l'invoquer. Et il répond parce qu'il est vivant, parce que les morts ne répondent pas. Il est vivant, il est ressuscité, et c'est lui que nous vous annonçons. J'ai sûrement pas dit tout ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je voudrais que vos cœurs soient touchés. Il y a un avenir, une espérance pour chacune des personnes qui est ici ce matin. Quelle qu'ait été votre vie, quel qu'ait été votre âge, de 5 ans à 86, 90 ans, 95 ans. Vous savez, ce texte m'a beaucoup touché. Quand je me suis converti, ma maman avait 6 ans. Mon papa avait 80 ans, je refaire une Bible. Du jour où je refaire, ils ont lu jusqu'à leur dernier souffle. Et un jour, ma maman avait lu ce passage d'Ésaïe 53, nous étions quelques chrétiens, j'étais là, et elle dit, alors, elle me dit, mais mon fils, mon garçon, qu'elle me disait, mon garçon, mais c'est de Jésus dont on parle dans ce passage? Ça m'a touché. Vous voyez, ces écritures, ce n'est pas des écritures comme les autres. C'est des hommes qui ont écrit, une quarantaine d'hommes qui ont écrit toute la Bible, mais inspirés par le même esprit, l'esprit de Dieu. Et il y a une attestation de cela. Il y a une attestation de cela. Recevez et demandons au Seigneur qu'il nous ouvre l'esprit pour que nous comprenions les écritures. On va laisser la place, à Jean-Luc. Je voudrais prier un instant. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu vivant. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as laissée. Cette parole qui est vivante, Seigneur. Merci, Seigneur, mon cœur est touché quand je vois comment tu l'as conservé, comment tu nous l'as fait parvenir jusqu'à nous, Seigneur. Comment tu veilles sur ta parole pour qu'elle s'accomplisse. Seigneur, merci que tu nous aies permis ce matin de partager cet accomplissement merveilleux que le prophète nous a annoncé, Seigneur. Ton Fils est venu en chair. Il a été manifesté en chair. Il est venu offrir sa vie, selon le plan merveilleux que tu avais conçu de toute éternité, pour qu'aujourd'hui, nous soyons sauvés. Je te prie, Père, que tous les hommes et les femmes, ici, que tu as créés, que tu aimes, puissent être touchés, Seigneur, par ta grâce. Parce que c'est le temps de la grâce, Seigneur. Je t'en prie, tandis qu'il est encore temps. Seigneur, viens encore toucher des cœurs ce matin. Qu'à travers, Seigneur, les témoignages de nos frères et sœurs qui t'ont rencontré, qui ont fait cette rencontre personnelle, Seigneur, d'autres puissent être touchés. Pour la gloire de ton nom. Amen.